serait plus lent. Il fait beau samedi en juin. On propose nous le ralentissement, donc c'est normal que les gens arrivent doucement jusque-là. Voilà. Donc vous avez compris que sur ces journées, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Donc hier, on était à la Gaîté Lyrique. J'espère que vous avez apprécié le DJ et etc. Sachant qu'il y a des choses qui continuent, donc notamment le podcast réalisé par les étudiants sur tous ces grands textes sur les enjeux de la nature et des polycrises écologiques est toujours disponible à ce petit QR code voilà, qui est là, donc n'hésitez pas. Vous dire aussi que sur le fond, donc nous avons hier travaillé principalement la question de cette hypothèse autour des politiques publiques et des métiers qui peuvent faire levier et des modes de gouvernance des institutions autour des enjeux de transition, redirection, adaptation. Et aujourd'hui, on va travailler davantage nos deux autres hypothèses qui sont la question des formes et des ingénieries de la création en coopération avec la recherche et les territoires. Et puis l'enjeu, là aussi, des formes de la création et de leurs ingénieries à travers la question du numérique, qui est un sujet majeur dans ICAR, hein, puisque c'est l'un des deux pôles de recherche d'ICAR, à travers donc, nos différentes tables rondes, la première que j'animerai et ensuite celle que Jean-François Jégot animera. Et puis on aura à nouveau un certain nombre de communications. Toujours de professionnels et de chercheurs, et on terminera la journée par une présentation de certains des projets incubés dans ICAR en lien avec les enjeux de redirection écologique que nous portons. Deux points sympathiques, puisqu'encore une fois, on ne parle pas sans les artistes et sans les propositions artistiques. Entre midi et deux, pendant la pause déjeuner, qu'on a voulu un petit peu longue pour ça, vous pouvez aller visiter l'exposition Annette Messager, donc une hirondelle ne fait pas le printemps. Et surtout, ne partez pas en fin de journée, puisque en fin de journée, la Compagnie du Singe Lebout vous proposera une courte performance, assez courte, 20-30 minutes je crois, qui promet d'être assez amusante, spectaculaire, vivifiante, avant de repartir les uns et les autres avec elle, nos occupations de création et ou de recherche. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis on y va. Je passe la parole à Mathieu, c'est ça? C'est toi?
Oui.
Voilà. Ah, et puis j'en profite aussi pour vous resignaler, pour ceux qui n'ont pas vu son travail déjà hier, Laetitia, Gianella, qui continue à accompagner par le dessin et par le graphisme le travail qu'on fait. Vous avez un premier résultat de son travail à l'accueil de la journée d'hier. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous accompagner tout au long de la journée. C'est moi qui ferai les liaisons entre les différents intervenants et intervenantes. Donc, je vais convier tout de suite les personnes qui participent à la première table ronde à venir s'installer ici avec nous. Table ronde sur la création, les pratiques artistiques et l'habitabilité. Pardon, il est encore tôt, je n'ai pas encore bu assez de café terrestre. Et qui sera animée par Lucie Marinier, que vous venez d'entendre, qui est donc professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers. Pardon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Mathieu de Sherman et je fais partie de ces fameux élèves du Master Générique de l'UQAM qui ont contribué à préparer cette journée. Vous avez ces différentes personnes qui sont un petit peu dans la salle avec moi. Nous avons Sophie Lynn, Marina Duval, nous avons Juliette Simon, nous avons Éric Hervieux également, et je suis en train d'oublier Lucille Bernatas, voilà, qui ont participé à l'organisation de cette journée.
Je les remercie. Merci aux étudiants du master.
Et bien voilà.
Merci Mathieu.
Je t'en prie.
Alors, on commence. Je sais pas si ça. Il faut que j'allume quelque chose, je pense. Comment ça marche? Si c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, parce que comme vous le savez, parce que ça devient un gimmick, un gag récurrent, je fais bugger tous les systèmes informatique et technologique. Voilà, j'incarne en fait le site de la low-tech et du ralentissement à moi toute seule. Voilà, il paraît que j'ai un fluide. Merci à toutes et tous d'être venus discuter avec nous avec un défi donc, qui est donc d'essayer de mettre dans la même phrase inaliénabilité des collections et habitabilité terrestre, qui se fait arriver. Entre autres choses, donc nous poursuivons ce matin nos échanges sur les coopérations, mais cette fois-ci sur les coopérations artistiques autour des enjeux climatiques et écologiques, ces coopérations entre chercheurs, artistes et ingénieurs culturels ou ingénieuses culturelles, porteuses et porteurs de projets. Et d'ailleurs, dans le cadre de la recherche-création, il peut s'agir des mêmes personnes à des temps et dans des postures différentes. On en reparlera, puisque deux d'entre vous sont dans ces postures intermédiaires communes, différenciantes d'artistes et de chercheurs, ou de créateurs et de chercheurs, ou de designers et de chercheurs. Et on va essayer de réfléchir ensemble à ce que peuvent apporter ces projets. Quelles méthodes immobilisent, quel partage de savoir et de compétences entre l'art, la recherche, qu'il s'agisse de la recherche en sciences du climat, aux sciences du vivant ou en sciences humaines et sociales, et les méthodologies du projet culturel peuvent avoir en commun, proposer ensemble, et puis aussi comment on peut diffuser ces projets, mais aussi diffuser leurs méthodologies alors que chaque œuvre et chaque projet culturel est par définition unique. Alors, est-ce qu'il s'agit de protocoles? Est-ce qu'il s'agit de méthodologies partagées? Et puis, comment vos projets incarnent les enjeux dont on a déjà parlé, d'habitabilité, de redirection écologique? En un mot, comment ils peuvent participer non seulement à la prise de conscience, mais peut-être à une véritable compréhension au sens de prendre avec soi, intégrer les polycrises écologiques et permettre l'action vers une redirection écologique, soit par l'action directe, soit par le positionnement citoyen, puisqu'on sait que chaque individu est en réalité trois personnes, une personne privée, un agent économique et social, et un citoyen ou une citoyenne. Et comment on peut travailler ensemble à ces redirections? Alors on a avec nous Chloé Latour, qui est juriste au départ et metteuse en scène et qui anime l'association S-Composition et qui notamment opère l'Assemblée des Terrestres, un lieu relativement hybride qui permet de tisser les liens entre les mondes de l'écologie, de l'art, de la recherche, mais aussi beaucoup d'autres acteurs au sein duquel vous menez des expérimentations situées dont tu nous reparleras. On accueille aussi Valérie Masson-Delmotte, qui est ancienne coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et membre du Haut Conseil pour le Climat et du Comité National Consultatif d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. Et depuis plusieurs années, vous incarnez la parole scientifique sur le dérèglement climatique. On peut vraiment parler d'incarnation en ce qui vous concerne, et vous réunissez aussi très régulièrement celles et ceux qui documentent la désinformation sur le climat, celles et ceux qui parlent du climat dans les médias, les journalistes, mais aussi les artistes qui tentent avec les scientifiques de trouver des mots et des images, et vous vous prêtez à beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives et beaucoup de porosité avec nos mondes, qui sont ceux des mots, des sons et des images, y compris du jeu vidéo, vous nous en parlerez, y compris des musées, avec ce que vous avez pu faire avec le musée d'Orsay, vous nous raconterez tout ça. Anne Langlois co-dirige le Centre d'art 40 mètres cubes à Rennes, qui est un centre d'art labellisé, mais qui est aussi un espace de formation pour les artistes sur toute une série d'enjeux socio-économiques pour eux et sur leur positionnement et leur place dans la société. Et tu es aussi une médiatrice de la Société des Nouveaux Commanditaires, dont tu nous parleras, qui est un programme relativement ancien maintenant de commande citoyenne qui permet à la société civile d'adresser des questions, de construire un cahier des charges et de faire appel à un ou une artiste pour tenter d'y répondre. Et vous avez beaucoup de commandes sur les sujets écologiques, dont celle qui est opérée par Elvia Teotsky, qui est ici, artiste et chercheuse, en doctorat de recherche création avec les Beaux-Arts de Nantes et l'Université de Nantes, qui a une formation initiale en agronomie et en agroécologie. Vous nous expliquera comment, en utilisant les outils scientifiques des SHS et des sciences dures, ou des sciences du vivant, vous travaillez avec Anne sur cette commande, sur ce territoire pollué et en réhabilitation qui sont les prairies Saint-Martin à Rennes. Et puis enfin César Arada, artiste et designer, voilà, donc on parlera peut-être un peu de cette position, franco-japonais, doctorant sous la direction de mon collègue Pierre Lévy du CNAM en design, travaille depuis longtemps sur différents sujets d'atteinte à l'environnement, en particulier sur les enjeux océaniques en Asie. Et tu me parleras de tes travaux actuels, notamment à partir de l'huître. Hein, c'est ça, voilà. Je vous propose peut-être de donner la parole en premier à Valérie, parce que commençons par parler de climat, avant de voir comment on peut travailler sur ces questions artistiquement parlant ou en termes de recherche.
Alors, parler climat, bah, c'est par exemple parler de le dernier épisode chaud exceptionnel de mai 2026, le plus précoce jamais enregistré pendant le temps scolaire, pendant des conditions de travail dégradées pour ceux qui travaillent en extérieur. Un événement exceptionnel par rapport aux informations historiques, mais attendu dans un climat qui se réchauffe parce qu'on ajoute des gaz à effet de serre. Et cette semaine, d'ailleurs, on a publié une réactualisation des indicateurs clés de l'état du climat et de l'influence humaine. Et malgré les progrès timides et lents qui ont été effectués pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ben, tout augmente en fait. Hein. Les émissions de gaz à effet de serre, l'accumulation de chaleur dans le système climatique, le niveau de réchauffement planétaire qui va atteindre 1,5 degré dans quelques années, et puis notamment les extrêmes chauds au-dessus des continents et les vagues de chaleur marine qui affectent l'océan. Et du coup, ça me permet de faire un lien direct entre la manière dont finalement on travaille comme scientifique du climat, les questions qu'on se pose sur la manière de pouvoir partager pas simplement le côté rationnel que je viens d'esquisser rapidement, mais aussi une expérience sensible, ce que l'on connaît, ce que l'on peut partager vis-à-vis à la fois des transformations liées à ce climat qui change, de la rupture que ça représente, mais aussi en fait des imaginaires associés aux transformations écologiques que l'on peut mettre en œuvre et qui peuvent permettre à la fois protéger le vivant, non humain, et en même temps anticiper, transformer nos infrastructures qui ont été pensées pour un climat qui n'existe plus, et puis tout en réduisant notre empreinte environnementale au sens large. Et donc nous aussi on a un PEPR en sciences du climat qui s'appelle le PEPR TRACS, hein, transformation de la modélisation du climat pour les services climatiques. Et dans le cadre de ce PEPR, il y a en fait un soutien à des écoles arts et sciences, donc la première qui avait eu lieu aux Ouches, autour de la question de ce que signifie le changement climatique à l'échelle humaine, et puis les récits et les imaginaires liés aux transformations écologiques. Et cette année, en fait, la prochaine école d'été arts et sciences, elle sera à Roscoff, et elle portera sur l'océan. Comment rendre perceptible le fait que nos activités, elles entraînent des bouleversements de l'océan qui accumulent le gros de la chaleur, dont le niveau monte, mais qui perd de l'oxygène, s'acidifie, et en fait, comment on rend tangible ce que ça implique pour la vie marine et puis les sociétés humaines qui en dépendent directement et indirectement. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est dans le cadre vraiment académique. Quand j'étais co-présidente d'un des groupes de travail du GIEC, on avait travaillé pour la première fois avec l'UNESCO et ICOMOS autour d'un agenda de recherche et d'action autour de la culture, du patrimoine et du changement climatique. Et en fait, la réflexion partagée, c'est vraiment que le monde de la culture joue un rôle fondamental dans la manière de se représenter et de contribuer à ce que peut être un futur résilient. Sachant qu'il y a énormément d'imaginaires catastrophistes, et en fait c'est quelque chose qui paralyse. Et du coup, comment on peut se projeter dans des transformations profondes à mettre en œuvre, mais inscrites aussi dans le retour d'expérience en fait, hein, de la résilience et de ce que peuvent nous dire différents aspects du patrimoine matériel et immatériel. Et dans ces aspects-là, en fait, les choses qui ressortaient, c'était notamment s'appuyer sur la diversité des systèmes de connaissances, donc savoirs académiques, hein, mais aussi les savoirs locaux, les savoirs d'expérience, les savoirs autochtones. Comment on arrive à hybrider cela? Il y a aussi toute la question de ce que implique un climat qui change vite en termes de pertes et de dommages, y compris pour le patrimoine culturel. Et cette année, dans le rapport que nous préparons pour le Haut Conseil pour le climat, on suit en fait en France à la fois les impacts du changement climatique, mais aussi les politiques publiques, leur efficacité, leur cohérence avec les objectifs. On aura un tout petit encadré, donc c'est prévu pour début juillet, mais on aura un tout petit encadré sur la situation du château de Chambord. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce qu'en fait, sur les pluies intenses de 2016, qui ont notamment en fait conduit à une inondation du château, et aussi sur l'aggravation des sécheresses des sols, ce sont deux types d'aspects pour lesquels nous, on peut faire un lien avec le changement climatique dû à l'influence humaine. C'est-à-dire on dispose en fait d'un diagnostic qu'on appelle des études d'attribution qui permettent, pour un type d'événement donné, d'identifier si c'est juste un aléa naturel ou bien si on peut faire le lien entre cet aléa et le changement climatique dû à l'influence humaine. Et donc c'est assez emblématique parce que c'est un site très visité. Et ma réflexion personnelle, c'est que sur les grands sites très visités, on donne très peu à voir ce que l'on sait des variations climatiques qui en fait ont été le cadre de cette histoire, des changements récents qui sont une rupture par rapport à ce qui s'est passé sur les derniers siècles, et des projections de ce que l'on sait par rapport à ce site-là. Comme je suis paléoclimatologue, on a notamment travaillé sur des informations issues des anneaux de croissance d'arbres à Fontainebleau, arbres vivants anciens, et puis poutres de bâtiments historiques. Et en fait, ça existe dans plein de contextes différents. Et on pourrait aussi imaginer de l'associer à l'expérience des musées. Et je rebondis là-dessus parce que souvent l'image que je donne, enfin pour nous un des défis difficiles, c'est faire en sorte que nos connaissances que l'on a, elles construisent ce qu'on appelle une littératie climatique, c'est-à-dire une culture partagée autour de ce qu'est le changement climatique, mais aussi les variations passées. Et puis le plus difficile, c'est les futurs possibles en fonction des choix qui vont être faits et qui montrent la gentilité, la capacité à agir. C'est pas une tragédie grecque, ça va vraiment dépendre des choix qui peuvent être faits. Et souvent, ce que je dis en fait comme difficulté, c'est que pour la plupart des gens, ce qu'ils glanent vis-à-vis du changement climatique, c'est comme l'image que je donne, c'est un tableau impressionniste. Donc vous avez un événement extrême, vous allez avoir une controverse ou une polémique dans un contexte où justement il y a beaucoup de désinformation. Vous allez avoir une négociation sur le climat, ou une nouvelle étude scientifique, ou une politique publique qui cherche à se mettre en œuvre autour de l'adaptation, par exemple, par rapport au climat à venir. Et en fait, pour les personnes, c'est une sorte de tache de couleur. C'est très difficile d'y donner sens. Pour ça, en fait, il faut prendre de la distance. Et c'est là où on voit l'image qui se dessine. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très sensible à l'invitation du musée d'Orsay sur son initiative « Cent œuvres qui racontent le climat ». Je pense que c'était aussi une réaction par rapport à l'interpellation des musées par des activistes qui finalement prenaient pour cible des œuvres, je pense dans l'objectif d'interpeller sur finalement ce qui choque, et ça choque plus de jeter de la soupe sur une œuvre protégée par une vitre que de détruire en fait de multiples manières les écosystèmes, la biodiversité, d'affecter le climat, ce qui est assez surprenant. Et en même temps, c'est, je pense, extrêmement dévastateur de prendre comme cible des œuvres d'art avec le risque de les endommager. Et puis du coup, c'est extrêmement clivant aussi, et peut-être que c'est contre-productif. Et donc je pense que ce que le musée d'Orsay a souhaité faire, c'est au contraire faire rentrer une réflexion, interpeller les visiteurs en prenant un choix d'œuvre. En plus, cette période, elle est vraiment intéressante parce que c'est le début de l'anthropocène, de l'industrialisation. Et donc chaque œuvre, elle raconte en fait la mise en place de l'industrie liée aux énergies fossiles, le gros morceau du réchauffement, trois quarts. Elle donne à voir aussi la pollution de l'air pour laquelle depuis on a fait des progrès. Elle donne à voir le moment où on pouvait se baigner dans la Seine, ce qu'on a reconquis difficilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur les rapports à l'environnement, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Elle donne à voir des paysages glaciaires qui aujourd'hui ont disparu, par exemple. Et donc il y a en fait cet aller-retour que je trouve vraiment intéressant entre différents moments, et qu'on peut aussi relier à des moments d'histoire des sciences, de découverte de l'effet de serre, de compréhension des processus physiques à l'œuvre, exactement à ce moment-là, qui sont les bases en fait des sciences qu'on utilise aujourd'hui. Et je veux juste terminer en disant que comme scientifique, en fait, il y a aussi des choses qu'on essaye de faire. Par exemple, mon collègue Ed Hawkins au Royaume-Uni a essayé de faire des icônes à partir de figures scientifiques, notamment, vous savez, les barres du bleu au rouge qui matérialisent le réchauffement, en faire quelque chose qui puisse être quelque part un marqueur ou un objet de dialogue, en travaillant avec tout le design visuel pour faire de ces graphes à base scientifique quelque chose qui suscite en fait une interrogation ou une réflexion. L'autre point que je voulais mentionner, c'était également des choses très difficiles scientifiquement et en termes éthiques. On travaille dans des comités d'éthique. C'est en fait les imaginaires multiples qui essayent de s'imposer. On en a parlé dans la journée du Centre Climat-Société autour de la désinformation et des récits. Et notamment Pierre Charbonnier qui avait fait l'ouverture de notre journée il y a quelques jours. Il expliquait en fait qu'il y a un récit, en fait un récit hégémonique qui est très fort, hein, qui est un récit de déni par rapport à l'influence humaine sur le climat, d'attaque sur les sciences du climat qui dérangent, climat, écosystème, inégalité aux États-Unis, d'attaque également sur le monde de la culture et beaucoup d'autres dimensions, mais qui va en fait avec une vision, un projet en fait, brutal. C'est-à-dire on prend la technologie quand c'est un instrument de pouvoir, mais quand c'est un constat scientifique qui dérange, on l'écarte. Et je trouve que c'est aussi intéressant de donner à voir finalement ces visions du monde, ces récits. On le voit nous glisser aussi par exemple sur, plutôt que de s'appuyer sur la compréhension des écosystèmes, sur de la sobriété, de l'efficacité, sur des solutions technologiques mais à mettre en œuvre dans l'évolution de nos pratiques, de sorte à réduire notre empreinte, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, bah, y a un imaginaire qui va être technosolutionniste poussé, qui va dire bah, on va pouvoir doper l'océan pour qu'il stocke du carbone, parce que côté continent, on voit bien que ça va être compliqué, ce qu'on appelle la géo-ingénierie marine, ou bien délibérément altérer le climat en injectant des particules dans l'atmosphère. Donc, par exemple, on a fait un rapport de l'Académie des sciences en octobre dernier qui montre bien les incertitudes, les questions éthiques, les questions de gouvernance qui sont majeures, hein, c'est le rapport au commun planétaire, mais alors ultime, et notamment par rapport à, par exemple, des acteurs privés, richissimes, qui disposent de technologies spatiales, qui ont récemment coupé l'aide humanitaire américaine aux enfants les plus pauvres du monde, et qui disposent de technologies qui pourraient permettre, en fait, de déployer ce type de réponse. Et là, en fait, je veux montrer, en fait, la puissance du travail artistique, avec notamment un travail d'une scientifique et artiste qui s'appelle Marie-Julie Bourgeois, qui a fait en fait un faux projet de start-up qui s'appelle Nubus, qui en fait prend tous les codes des start-up et propose en fait ce type, vend en fait hein, ce type d'approche. Et finalement, quand elle le joue, quand elle le représente, c'est encore plus puissant que nous, tout ce qu'on peut faire comme analyse rationnelle, factuelle et scientifique, parce que ça interpelle profondément beaucoup de personnes qui, au début, n'arrivent pas à discerner si c'est vrai ou faux. Il y a un moment donné, les gens basculent, deviennent choqués, et c'est intéressant de voir ce que ça suscite comme réaction. Et puis, je termine en fait en disant que sur d'autres dimensions, la dimension sensorielle, etc., elle est formidable. Moi, hier soir, j'organisais dans ma petite commune de l'Essonne un événement dans le cadre des Nuits des Forêts. Donc, c'était en fait l'idée, c'était à l'écoute des vivants. On en a fait un événement avec des artistes inspirés par les arbres et le vivant de ce bois, et avec des scientifiques qui apportaient différents regards. Et moi, j'ai été très frappée par l'émerveillement, notamment des enfants, avec une écoute immersive des sons des sols, proposée par Diane Chou et Paul Gutmann, sans savoir ce que c'est, écouter les sons des sols, s'interroger sur, finalement, il y a d'autres vivants qui entendent autrement, et une ouverture bien plus grande des enfants d'ailleurs que les adultes, c'était vraiment très intéressant. Et puis Laurent Tillon de l'ONF qui donne à voir en fait comment on vit, comment on pense, comment on perçoit une chauve-souris avant de les faire écouter. Et ce côté en fait, arriver à se mettre à la place d'une autre forme de vie que j'ai trouvé vraiment formidable et qui crée des ouvertures incroyables. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup Valérie. On y reviendra parce que tu mènes plein d'autres. Voilà, tu travailles aussi avec des gens du jeu vidéo. Avec, on y reviendra. Mais il y a deux points que je voudrais souligner. Évidemment, moi j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de la redirection écologique du musée. Et ce que j'ai trouvé particulièrement passionnant dans le projet Centre qui raconte le climat, c'est à quel point on vous a demandé de partir des œuvres, mais de faire votre métier de scientifique, pas de parler comme des historiens d'art, de parler en tant que scientifique, mais où le musée a fait son travail de médiation, et ça a donné ce livre, Cent œuvres qui racontent le climat, qu'il faut que vous ayez tous lu. Moi, c'est celui que je donne maintenant à mes étudiants, en disant, en fait, si vous voulez une introduction aux enjeux climatiques, avec des scientifiques qui parlent en s'appuyant sur ce qu'est votre passion, qui est l'art et la culture, prenez ce livre, parce que Jean Jouzel vous raconte l'histoire du climat, parce que Luc Abadi vous parle de biodiversité en partant de ce qui vous touche. Et c'est vrai que ce projet est parti de la question des activistes, en tenant compte du fait que c'était sans doute pas la meilleure solution, mais que on constatait, et c'est ce que Anne Bessette, que vous avez vue hier, qui travaille sur les activistes dans les musées, c'était pas le rôle qu'elle avait hier, mais c'est ça son sujet de recherche, qu'en réalité, beaucoup de ces jeunes, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, sont des historiens d'art. On fait des études d'histoire de l'art, connaissent parfaitement le musée, aiment le musée, et interpellent le musée dans son rôle, et à Orsay, ils les ont pris au mot, quelque part, ce que j'ai trouvé... ce que j'ai trouvé intéressant. Mais dans ce que tu dis, il y a aussi cette notion de se mettre à la place d'eux. Et ça, c'est assez fondamental. C'est ce que vous faites, je crois, Chloé, à travers toutes vos méthodologies sur l'habitabilité, avec l'outil de la boussole, avec de penser les concernements là où ils se rejoignent, là où ils frottent. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ça?
Oui, effectivement, j'étais en train de rebondir un peu dans ma tête en traduire un peu l'expérience sur l'enquête sur les attachements. Je crois que vous avez mentionné hier ce mot employé par Diego Landivar de Redirection écologique. Mais là, c'est vraiment mettre à jour un attachement, un concernement très concret de personnes, d'activistes, et du coup d'utiliser ces attachements pour ensuite refaire des propositions qui touchent et qui concernent. Alors, bon, moi, tu m'as présenté, donc je suis Chloé Latour, je suis avocate et metteur en scène, et donc je co-dirige une structure qui s'appelle Ascomposition, avec le compositeur et metteur en scène Jean-Pierre Sévos, et avec un collectif hybride, on a élaboré un projet qui s'appelle l'Université des Terrestres. Et donc, là derrière, je vais vous montrer juste quelques images et quelques photos, mais... l'Université des Terrestres, je crois que c'est dans le temps qu'on a là, c'est bien juste de le partager en tant que tel. C'est en fait une initiative un peu citoyenne, on peut dire, un organe un peu intermédiaire, une interface qui vient des citoyens entre la recherche et à la fois artistique, scientifique et politique. Et le but de l'Université des Terrestres, c'est de créer des exercices qu'on peut pratiquer. Qu'on peut pratiquer concrètement et de traduire tous ces exercices pour pouvoir faire face. Ben, là, Valérie l'a très très bien annoncé, on est tous plongés dedans, dans ce que mon père, le philosophe Bruno Latour, appelait le nouveau régime climatique. On peut l'appeler de plein de manières, mais on a beaucoup travaillé avec lui. Il nommait ce mot de compétence d'habitabilité. Donc c'est sûr qu'on a du mal à le dire, ce mot habitabilité n'est pas si simple. Mais en même temps, il est extrêmement puissant, je pense, ce terme aujourd'hui par rapport à la journée qui nous intéresse, pour justement créer ces lieux dans lesquels ouvrir des espaces d'enquête, c'est ce qu'on essaie de faire à l'Université des Terrestres, d'ouvrir des espaces d'enquête collective sur de quoi dépend cette habitabilité. Et qu'est-ce qui rend la Terre habitable? Et ça, de rentrer par là permet d'être très horizontal, de rentrer dans des mondes très différents et de pouvoir s'échanger des pratiques, d'aller rechercher dans plein de disciplines les outillages, les exercices, les concepts, les recherches, les manières d'aborder les choses qui peuvent nous outiller en tant que citoyens pour faire face à ça et développer ces compétences. Et se dire qu'on peut les développer, qui est quand même une source d'espoir aussi, je trouve, par rapport au côté un petit peu écrasant de la situation. Tragédie grecque, disait Valérie, il y a 15 ans, quand on travaillait avec mon père, on avait créé une pièce avec Frédéric Aïtouati, qui s'appelait Gaïa Global Circus, dans laquelle Valérie Masson-Delmotte était notre modèle. Et on travaillait sur l'insensibilité et c'était devenu un personnage, effectivement, de tragédie grecque. C'était Cassandre, presque. Sauf qu'aujourd'hui, justement, en 15 ans, la situation a complètement changé et nos manières d'agir ont complètement changé, grâce notamment à ce projet pilote qu'on a mené avec mon père en 2000, il y a 4 ans, le projet pilote ou atterrir, donc on peut partager peut-être l'image d'après sur les différentes démarches qu'on mène de...
Est-ce que vous voulez une télécommande comme ça?
Oui,
Waouh, wow. Non seulement ça marche, mais en plus on a ce genre de petit aujourd'hui. Voilà. Parce qu'hier c'était la panique totale.
Attends, il faut juste que je fonctionne comme ça.
Voilà. Waouh.
Donc c'est juste, voilà, dans le, je vais pas les détailler juste, mais c'était ce que je voulais amener juste comme première enclenche, c'est cette manière d'ouvrir des espaces d'enquête où on accompagne et s'outille avec des citoyens et avec des personnes de tous bords. Donc le projet Ouattérir, par exemple, son but, il a la même source que le mot redirection écologique, puisque... ce qui est très intéressant dans le projet Ouattérir qu'on a mené, donc où on accompagne des personnes à mener une enquête sur leur territoire de subsistance, sur qu'est-ce qui fait l'habitabilité pour eux, de suivre méthodologiquement les interdépendances, ce qui marche politiquement et qui redonne des puissances d'agir et qui incapacite, c'est justement de pratiquer en même temps, conjointement, à la fois des méthodologies qui viennent plutôt des science studies, là, donc ce champ disciplinaire que mon père avait mené dans les années 70 avec tout un groupe de chercheurs qui viennent plutôt de la sociologie des sciences, et donc notamment une théorie, alors ça pourrait être d'autres, mais c'est pour donner un exemple de comment les concepts aussi qui viennent de la recherche peuvent outiller les citoyens, cette théorie de l'acteur réseau très concrète. Et bien, si on crée un dispositif, ce qui s'est passé avec Ouattérir, où on le pratique de manière citoyenne, en conjointement pratiquant des exercices artistiques et en ayant une pratique artistique à la fois en amont, pendant le processus, puis ensuite en aval, en donnant les outils pour que les personnes justement puissent créer leur propre représentation de la situation, les partages de récits d'enquête. En fait, c'est ce qui nous a... Là, on en fait l'expérience très concrète, donc c'est, je trouve, très source d'espoir. C'est que la puissance d'agir politique qui arrive de ça, elle naît de la pratique conjointe. De ça, si on enlève une dimension, si on enlève les exercices artistiques et on a fait l'expérience, ça n'a plus du tout le même impact. Au niveau de l'énergie, au niveau des compétences d'habitabilité qui se créent, on perd vraiment complètement ça marche plus, voire plus, moins, quoi, et plus. Parce que ces compétences qui sont développées dedans, elles sont à la fois des compétences d'équilibre relationnel, émotionnel, où le corps est extrêmement présent, les affects dans toutes ces affaires, tout ce qui nous meut, nous émeut, nous met en action, joue un rôle crucial. Les compétences, l'aptitude à mener l'enquête. On va en reparler peut-être tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend par enquête. L'aptitude à mener l'enquête, c'est vraiment des outillages, et ça, on monte en compétences, et on peut puiser, on mène une enquête en création artistique, on peut mener une enquête dans le monde scientifique, il y a plein de manières de mener l'enquête. On mène l'enquête, moi j'étais avocate, construire des faits, c'est quelque chose de très concret, on peut s'outiller aussi de ça, on peut aller chercher dans plein de champs disciplinaires, de qu'est-ce qu'il fait. Par contre, si tous on se met en enquête, alors là, il se passe autre chose. On arrive à mêler ces pratiques sans tout confondre et sans effectivement dire bah, « moi je suis scientifique, bah non t'es pas scientifique parce que scientifique c'est tout un truc, moi je suis artiste, bah non, moi je suis agriculteur, bah non t'es pas agriculteur, t'es pas maraîcher, tu sais rien là-dedans, etc. » Mais par contre, on ouvre des espaces. Et en fait, ces espaces d'enquête en collectif, quand même, on n'en a pas beaucoup, on ne sait pas où aller. Et pour moi, c'est là où les lieux culturels ont un rôle crucial. Parce qu'on ne va pas aller à un parti politique, on ne va pas aller dans un parti religieux, enfin chacun peut mener ça de son côté, mais ça sera forcément clivant, on n'arrivera pas à mélanger les mondes. Parce que là, ça devient l'enjeu crucial, c'est de mélanger les mondes et les expériences, les connaissances. Et là, le lieu artistique a quand même une puissance très très grande, on a fait beaucoup de projets dans des théâtres, les gens sont prêts à faire des pas de côté assez incroyables, et ils n'allaient jamais dans ces lieux-là avant, mais ils viennent parce qu'ils vont mener une enquête sur quelque chose qui les concerne. Et c'est là où le concernement joue un rôle important. Donc c'était juste pour amener un peu cette... J'ai pas du tout bougé mon petit PowerPoint pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce quand on dit s'équiper ou compétences d'habitabilité, ça peut être un petit peu abstrait, ça peut prendre plein de formes d'exercices. Donc je vous montre juste un tout petit peu. Ça, c'est la boussole donc créée par Soeya Jmerbaba et Alexandra Arène dans le projet pilote Où atterrir. Évidemment, quand on montre les photos, c'est une question de documentation. C'est qu'on a l'impression juste que c'est des gens qui se rencontrent. C'est pas si évident que ça de trouver des photos. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu la chaleur humaine, la convivialité, on dirait, le mélange à la fois partager des moments dans des situations de grands conflits ou de désaccords, parfois juste d'avoir partagé un moment de fiesta, de peau, et en même temps d'être parti en enquête et d'avoir parti. Tout ça joue un rôle extrêmement subtil et important à ne pas sous-estimer, où je pense qu'on peut vraiment discuter de. Les lieux culturels pourraient devenir des. Moi j'appelle ça des dojos de l'habitabilité. C'est l'art, on pratique un art martial particulier. Et là, il va falloir peut-être être vraiment en mode art martial. Mais c'est c'est un dojo, un laboratoire terrestre. Si tous les lieux peuvent devenir des lieux de dojo d'habitabilité, ce serait cool. Puis c'est un peu plus réjouissant de se dire on va la catastrophe totale.
Merci Chloé. Ce qui est intéressant, on a peut-être aussi, on pourra en reparler après, c'est qu'il y a la question de l'enquête, puis il y a aussi le fait de poser des controverses. Des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord parce que nos concernements peuvent se rencontrer ou être en conflit entre l'agriculteur et le urbain, et avec une des questions qui est comment on fait en sorte que ceux qui ne savent pas, ça c'est ce qu'on se disait jusqu'ici, mais on est plutôt dans le ceux qui ne veulent pas, comment on les ramène, comment on les associe sur un territoire, c'est une des questions que vous avez aux Prairies Saint-Martin dans ce projet porté par les nouveaux commanditaires Anne et Elvia.
Exactement, merci. Je vais commencer par...
C'est moi qui ai fait goûter.
Non, c'est toujours moi.
Donc, merci Lucie. Ben oui, il y a plein de déjà d'idées qui résonnent à ce stade déjà de la table ronde. Donc peut-être je vais vous faire un très court rappel du protocole des nouveaux commanditaires avant de développer davantage la commande sur laquelle on travaille ensemble avec Elvia. Donc le protocole des nouveaux commanditaires a été créé au début des années 1990 par un artiste, François Hertz, et ça a été le programme de culture de la Fondation de France pendant 30 ans. Et depuis 2020, c'est la Société des Nouveaux Commanditaires qui porte au niveau national l'action Nouveaux Commanditaires et qui fédère les 50 médiateurs et médiatrices qui sont répartis sur à peu près tous les territoires. Donc ce protocole, il permet à des citoyens et des citoyennes, donc quand on emploie ce terme, c'est vraiment au sens très large, de faire émerger justement des questions, des sujets, des situations qu'ils et elles peuvent rencontrer au quotidien et qu'ils ont envie de porter de manière collective. Donc ce sont les citoyens et les citoyennes qui portent les sujets des commandes. Depuis quelques années, on constate quand même une forte augmentation des demandes liées à l'environnement. Et aujourd'hui, il y a, je crois, 44 commandes en développement au niveau national, sur tous les territoires. Il y a à peu près la moitié qui ont pour objet, pour sujet, ou comme question un peu plus périphérique, des questions de protection, de respect de l'environnement, mais aussi de transformation, d'adaptation et de pratiques vertueuses. Donc on a par exemple un programme de 6 commandes dans le Haut-Jura sur la cohabitation avec le lynx, 5 commandes liées aux enjeux de l'eau, dont, par exemple, le prix Coel cette année, c'était une commande, un nouveau commanditaire porté par la médiatrice Valérie Pudel dans le Haut-Jura, avec disnovation.org, des artistes qui ont aussi obtenu le prix Aréco Conception. Donc, le sujet est vraiment...
Ils sont un des collectifs d'artistes sur lesquels on travaille sur la recherche, sur l'entrée en collection de l'art écologique.
Aussi, exactement. Et ils ont présenté leur film ici même, au Musée Pellegrin. Oui. Ces questions sont aussi parfaitement intégrées chez les médiateurs et les médiatrices et partagées également avec les artistes sur, donc on réfléchit beaucoup et on agit aussi évidemment sur comment produire les œuvres aujourd'hui, quels matériaux, quelles techniques, mais aussi que produire comme œuvre avec des pratiques aussi plus immatérielles, on n'est plus forcément dans des œuvres qui sont pensées, conçues pour l'éternité. Donc ça fait partie vraiment de nos réflexions. En ce qui concerne cette commande aux Prairies Saint-Martin à Rennes, sur laquelle on travaille ensemble avec Elvia,
Le groupe de commanditaires est assez hétérogène et intergénérationnel, puisqu'il s'agit de... Il est composé d'une enseignante de l'Institut Agro de Rennes-Angers, qui est spécialiste des micro-organismes, d'étudiants, de groupes d'étudiants, hein, de M1, et aussi des doctorants du collège doctoral de Bretagne, des membres d'une association, d'un jardin collectif qui s'appelle le GAEC, qui est basé aux Prairies Saint-Martin, et des animateurs et animatrices et usagers et usagères d'un hôpital de jour qui ont également un terrain dans cette zone des Prairies Saint-Martin. L'objet de la commande est multiple, comme c'est souvent le cas. Donc la question, le point de départ était certainement une question de dépollution des sols via les micro-organismes, donc de remédiation de ces sols, des croisements entre méthodes artistiques et méthodes scientifiques, et aussi l'histoire et la réappropriation de cette zone de 28 hectares qui a été pendant des siècles, qui a accueilli à peu près toutes les activités polluantes dont on ne veut pas dans les centres-villes, et qui depuis quelques années est un projet de la ville de Rennes de transformer ce lieu en parc national urbain, avec ce terme un peu curieux, parc naturel urbain, pardon. Donc avec une dimension citoyenne, donc des personnes, des habitants du canal Saint-Martin qui ont été expropriés, donc un fond aussi un peu traumatique, voilà. Donc c'est une commande qui touche à de nombreux sujets et enjeux, et qui est vraiment transversale dans les sujets qu'elle aborde, puisqu'on touche à la fois à l'enseignement supérieur, à l'éducation, au handicap, à l'environnement, la botanique, l'herboristerie et l'aménagement du territoire, et j'en oublie sans doute. Donc cette commande, elle est soutenue par la Société des Nouveaux Commanditaires, par la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Ville de Rennes, l'Institut Agro Rennes-Angers, bien sûr. On attend là une réponse de l'Office français de la biodiversité Bretagne. Et ensuite, on a encore d'autres partenaires sur la production de l'œuvre, dont Elvia parlera davantage. La commande a aussi bénéficié d'apports de dispositifs de recherche participative et de recherche avec, par et pour la société. Et c'est vraiment un lieu de partage de connaissances et de partage de connaissances à différents niveaux, enfin, voilà, qui proviennent de différentes origines. Donc celle des chercheurs et chercheuses, évidemment, des étudiants et des étudiantes. Mais aussi, on donne une place, et ça dans le cadre des commandes, c'est souvent le cas, pour la recherche non académique, c'est-à-dire celle des commanditaires. Par exemple, parmi les commanditaires, il y a une herboriste, donc spécialiste des plantes comestibles et médicinales indigènes. Il y a cette histoire longue des prairies, de ce territoire. La question de la pollution du sol, puisque voilà, l'argument, par exemple, pour supprimer des jardins ouvriers et familiaux, était cette question de pollution, hein, des sols. Et puis des questions évidemment de droit et de juridique, puisqu'il y a eu des expropriations et des habitants, 5 habitants qui ont réussi, qui ont gagné en fait, et qui ont réussi à conserver leur maison et à rester et à éviter là. Donc je vais maintenant passer la parole à Elvia, qui a été donc invitée voilà, par le groupe de commanditaires et moi-même à répondre à cette commande et qui a arpenté largement ce territoire. Merci.
Mettre une petite image.
Mais...
Oui,
la télécommande est
c'est
en
vous
point,
qui l'avez.
Mon index, comme vous préférez.
Oui, ça c'était pour vous montrer le site et voilà une liste de commandes qui touchent.
Il faut que tu parles dans le micro, sinon ça n'enregistre pas.
Oui, c'est vrai. Voilà. Je peux faire la télécommande.
Merci, même si je ne sais pas trop comment je vais gérer mon temps. Mais voilà, donc moi en fait je suis artiste, chercheuse. Doctorante actuellement en recherche création, et c'est vrai que de par ma formation initiale en agroécologie, moi j'étais assez outillée justement pour mener des enquêtes, et j'ai eu vraiment cette chance de suivre une formation à Montpellier au Centre National d'Études Agronomiques des Régions Chaudes. Donc, ça s'appelait comme ça à l'époque, il y a 20 ans, maintenant c'est l'Institut des Régions Chaudes, ça dépend de Supagro. Et en fait, effectivement, on était tout le temps sur le terrain en train d'interroger ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, ce qu'on nous rapportait, etc. Et donc Donc finalement, c'était une formation extrêmement riche pour moi. Elle m'a permis d'aller sur le terrain, d'aller un petit peu loin aussi dans les pays du Sud. Et ensuite, donc, j'ai fait une formation en art plastique et aux beaux-arts pour avoir un terrain finalement aussi d'expression et pour tenter de traduire aussi en fait ces enquêtes et de finalement participer aussi à la diffusion un peu en fait de la recherche. Parce que finalement, voilà, j'avais pas envie d'être dans la gestion de projet. C'est ce qu'on me proposait finalement à la sortie de l'école. Non, moi je voulais rester toujours dans cette position de chercheuse, mais avec d'autres outils aussi, donc l'expression plastique. Et donc, en fait, depuis la sortie de l'école des Beaux-Arts, que j'ai faite un petit peu tardivement, je continue à mener des enquêtes, tant que je peux. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on ne donne pas toujours les moyens ou le temps de le faire. Ça aussi, c'est une question qui est importante, je pense qu'on peut soulever, hein, comment le secteur culturel, en fait, aussi nous donne les moyens, nous, les artistes, à passer du temps, à aller interroger aussi ces territoires, à mener des projets de collaboration. Parce que ça, c'est vraiment pas simple, c'est un peu coûteux, en fait, quelque part, en temps. Et donc voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai toujours, en fait, favorisé ces temps longs, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je suis en doctorat, en fait, en recherche-création aujourd'hui, 12 ans après la sortie des Beaux-Arts. Parce que, en fait, il me semble qu'il faut réserver ce temps de réflexion. Mais c'est va-et-vient aussi, en fait, finalement, entre le faire et la pensée. Et en plus, moi, j'ai l'habitude, effectivement, d'impliquer aussi de nombreuses personnes. Et pas que des personnes, pas que des humains. J'implique aussi le vivant dans ma création. Donc là aussi, en fait, il y a une temporalité du vivant qui n'est pas du tout la nôtre aussi. Donc, donc on était sur des temporalités extrêmement étirées. Et donc là, voilà, je vous ai mis une petite image des prairies Saint-Martin. En fait, il faut savoir que c'est une ancienne friche industrielle qui a été fortement polluée par les activités de tannerie industrielle, donc après-guerre. Et ensuite, depuis quelques années, en fait, la mairie a décidé finalement de renaturer, j'ai envie de dire, de réhabiliter cette zone qui est quand même aussi une zone tampon, une zone humide en fait. Et donc finalement, voilà, ce projet de créer un parc naturel, de créer aussi une zone poumon vert de la ville. Ce qui pose la question de l'habitabilité, évidemment, mais pour qui ? Parce qu'en fait, quelque part, ça favorise aussi la construction de nouveaux immeubles tout autour, qui là s'adressent à une certaine frange de la population. Et alors que, justement, vivaient sur cette friche industrielle de nombreuses familles. Et vivaient et survivaient, en fait, parce qu'effectivement, ils avaient quand même une activité de jardinage, c'était très très dense. Il y avait beaucoup d'activités et aussi beaucoup d'occupations différentes, en fait, dites sauvages, en fait, quelque part, parce que sans permis, sans autorisation, les personnes, en fait, ont construit des maisons assez précaires pour certaines, certains avec des droits, d'autres non, et c'est bien pour ça qu'il y a eu beaucoup de controverses au moment où la ville, en fait, a décidé de transformer ça, de nettoyer, dépolluer. Certes, mais en fait, dire, ben là, maintenant, on en fait un parc naturel pour implanter des aires de jeu, mais aussi des zones de balade, etc. Peut-être un peu passé. Et en fait, donc, ce site était pollué, il y avait des tanneries, donc évidemment, qui ont été démantelées. Et en fait, comme dans de nombreux terrains pollués, en fait, ils ont choisi de confiner les terres, donc ils ont fait des excavations pour, en fait, après, finalement, les confiner sous bâche thermique, et donc, ce qui constitue ce but paysagère. Voilà, donc là, on est vraiment sur un ancien site de tannerie industrielle, et évidemment, il y a de la ménage. L'aménagement paysager pour construire ces petites buttes hein, et faire en sorte que plus rien ne déborde. donc en fait, effectivement, j'ai été appelée sur cette commande et bon, c'est pas non plus un hasard, parce que j'ai fait justement des études en agronomie. Donc le projet est porté notamment, entre autres, par une enseignante chercheuse donc de l'Institut Agro. Et c'est vrai que elle est là à mes côtés avec ses étudiantes. Elle a vraiment joué un rôle clé. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais vraiment, enfin, je pense qu'on peut parler de sa ténacité à vraiment, en fait, quelque part, mener ses enquêtes avec moi, avec des étudiantes, mais de, vraiment aussi de différents niveaux et de différentes écoles aussi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment mené de nombreux ateliers, workshops sur ce terrain-là, en croisant les regards. Et d'ailleurs, elle avait même aussi proposé donc, cette enquête à la formation donc à l'école doctorale de Bretagne, pour qu'il y ait aussi des doctorants, doctorantes de différentes disciplines qui nous accompagnent, qui viennent aussi interroger l'histoire du lieu, la mémoire, la toxicité, etc. Et donc évidemment, les étudiants en agronomie, en fait, se sont intéressés au sol, et particulièrement aussi aux bactéries du sol, parce que donc, Sophie Jean, cette enseignante, est enseignante chercheuse en microbiologie. Donc en fait, on était essentiellement sur le terrain, à la rencontre aussi des jardiniers, des anciens riverains, des nouveaux aussi occupants, occupantes. On a mené quelques expériences en laboratoire également pour étudier les bactéries, savoir comment en fait elles ont aussi gardé la mémoire, en mémoire en fait l'activité passée, parce qu'effectivement il y a différentes activités qui sont déposées en fait sur ce sol. Donc voilà, c'était pour voir si justement elles avaient une forme de résistance ou de résilience aux pollutions chrome, en fait, parce que l'activité de tannerie a laissé énormément de chrome dans le sol. Donc on a mené plusieurs expériences, et moi, à partir de là, j'ai réfléchi à une œuvre artistique, à une proposition artistique. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je ne la fais pas toute seule. Donc ce qui déplace aussi beaucoup la notion d'auteur, d'autrice, en fait. C'est l'œuvre d'Elvia Teotsky, mais avec les commanditaires, mais avec le vivant, avec aussi d'autres scientifiques, d'autres artisans également. Donc ici, en fait, on a démarré des prélèvements aussi avec... Donc à la fois une enseignante et chercheuse de l'Institut Agro, donc spécialiste de l'écologie du sol, mais aussi donc les commanditaires membres du jardin collectif, le GAEC. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de révéler justement l'activité souterraine du sol et de voir comment à la fois les bactéries, mais aussi la faune du sol, en fait, travaillent et peut-être dépolluent, participent à la dépollution du sol... savoir comment aussi, finalement, elle nous indique l'état de santé du sol. Et en fait, il se trouve que Guénola Pérez, elle est donc experte des vers de terre. Et elle est assez passionnante. Elle travaille dans le monde entier. Et en fait, elle a, pour sa thèse, elle a élaboré un outil extrêmement simple qui nous permet, en fait, de cartographier le sol et justement d'étudier toutes les galeries en fait des vers de terre pour comprendre justement la santé du sol et voilà, parce que ça nous indique énormément en fait ça nous donne beaucoup d'informations et en fait elle fait des scans 3D en fait donc moi j'ai collaboré avec elle, première collaboration c'est avec elle aussi parce que en fait on a fait ces échantillons et après on a passé tout ça au scanner 3D pour avoir la modélisation des galeries. Ça révèle quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas percevoir. Je vous ai mis un petit exemple là d'une galerie de vers de terre, mais relativement simple, pas du tout ramifiée. Là, pour le coup, celle-ci, elle était... En fait, pour la petite anecdote, au jardin partagé, justement, ils étaient persuadés d'avoir une vie du sol extrêmement importante. Et en fait, il se trouve que, justement, comme c'est trop cultivé, comme c'est vraiment travaillé...